Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur des eaux douces morbihannaises pour découvrir une espèce méconnue et fragile, la mulette perlière. Cette espèce complexe et rare est classée en danger critique d'extinction sur la liste rouge européenne de l'Union internationale de la conservation de la nature. Cette moule d'eau douce, filtreuse d'eau très efficace, a fait l'objet d'un programme européen LIFE pour maintenir et préserver l'espèce dans nos cours d'eau. Pour en savoir davantage sur ce plan et la mulette perlière, Ronan Lemener, chargé de mission biodiversité au sein de Bretagne Vivante, sera avec nous d'ici une quinzaine de minutes, mais pour l'heure, on va le retrouver en compagnie de Pierrick Pustor, chargé d'études mulette perlière à Bretagne Vivante, Yves Merle, technicien rivière pour Blavet Terre et Eau, et Fabien Carré, technicien rivière pour Lorient Agglomération. Ronan nous a donné rendez-vous à l'église de Persken dans le Morbihan, avant de nous diriger vers la rivière du Manet-en-Toux sur la commune de Bubry pour découvrir des mulettes perlières.
Bonjour Clément, bonjour. Enchanté, désolé pour le retard.
Ronan, Pierrick,
bonjour.
Bonjour Fabien,
bonjour.
Yves,
bonjour, enchanté.
Et
salut, bonjour. Clément, enchanté.
Là, on va aller sur la rivière qui s'appelle le Manet-en-Toux. On va aller contrôler le passage de l'hiver de mulettes qui sont dans des boîtes. C'est les mulettes qu'on élève en boîte depuis maintenant peut-être 7-8 ans et qu'on envisage de relâcher au cours de l'année 2024. Donc, elles sont équipées aujourd'hui de transpondeurs pour pouvoir les suivre lorsqu'une fois qu'elles seront relâchées dans le milieu naturel. Mais pour l'instant, elles sont dans des contenants et donc on voit comment elles ont passé l'hiver. Ronan Lemener, moi je suis chargé de mission de biodiversité et je passe un peu et même pas mal de mon temps sur la conservation de la mulette perlière dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d'action. Elle était présente historiquement dans la plupart des cours d'eau de la partie ouest de la Bretagne, mais aujourd'hui on ne compte plus que 27 rivières à mulette en Bretagne. Je pense que la population a diminué de plus de 90% au cours du XXe siècle. Donc diminution en nombre de mulettes et diminution en nombre de rivières également. Et c'est une espèce qui est très exigeante sur la qualité du milieu. Donc, les rivières dans lesquelles on les trouve actuellement sont des rivières qui sont de très bonne qualité.
Et en fait, le bassin versant ici de la Sarre, tu as pas mal de choses comme ça. Tu as des parcelles très cultivées sur le plateau et des coteaux boisés plutôt préservé.
Okay.
C'est un cas caractéristique de ce qu'on voit et malheureusement en fait la disparition des prairies, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est moins bien au niveau de l'habitat pour la mulette perlière. Ce que ça entraîne en fait c'est des départs de sédiments. Donc tu vois quand il pleut, il y a plein de terre qui part.
Ah, elle me dit bonjour.
Des sédiments qui partent à la rivière et en fait qui vont colmater les sédiments de la rivière. Et ça, c'est problématique pour la mulette. C'est le plus gros problème qu'elle connaît actuellement. En Bretagne.
Donc là, il faut s'équiper.
Ouais, c'est ça.
Place aux bottes.
La mulette perlière, c'est une moule d'eau douce, c'est donc un bivalve qui est présent depuis des millions d'années, on le sait ici en Bretagne et partout ailleurs. Elle a une répartition mondiale déjà assez étonnante, puisqu'en fait elle est présente en Europe et également en Amérique du Nord. Elle est présente sur la côte est des États-Unis et c'est vraiment la même espèce génétiquement parlant, c'est la même espèce. Et donc en Europe, elle s'étend du Portugal jusqu'au cercle polaire, c'est-à-dire Russie, Finlande, Norvège. Elle a pas mal de particularités, elle est assez exceptionnelle à plus d'un titre, cette mulette perlière, donc notamment sa longévité, puisque en fait ici en Bretagne on a des longévités pour la mulette qui est en moyenne de 80 à 1 siècle, donc ce qui est déjà en fait un animal qu'on appelle Longélif, qui a donc une durée de vie longue. Pierrick Pustor, chargé d'études mulette perlière à Bretagne Vivante également. Et dans les cas où la mulette, en fait, plus on va remonter vers le nord avec un gradient nourriture et température qui va donc s'abaisser, plus la durée de vie va être importante de la mulette perlière. On sait qu'on a des mulettes perlières qu'on a de manière quasi certaine en fait estimé l'âge à 280 ans pour les plus âgés. On le sait de manière certaine parce qu'on peut faire des coupes dans les coquilles et qui vont nous indiquer, en fait, un peu comme pour les cernes des arbres, l'hérochronologie. Ça veut dire qu'on va pouvoir dater chaque saison chaude, chaque saison froide, et donc on va pouvoir donc dater de manière assez précise, voire très précise, l'âge d'une mulette qui est morte. Il y a pas mal d'autres particularités pour l'espèce, hein. Le fait qu'elle soit, en fait, dans son cycle biologique affiliée à la présence de salmonidés, soit saumon atlantique, soit truite fario. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de truite ou de saumon, la mulette ne peut plus se reproduire, ne peut plus accomplir son cycle, et donc forcément est en difficulté. C'est une espèce également qu'on qualifie d'espèce parapluie. Là, aujourd'hui, on est présent avec des techniciens de rivière sur le site. Là, clairement, c'est une espèce qu'on dit parapluie parce que ça signifie qu'elle, lorsque la mulette est présente dans un cours d'eau, bah, on peut considérer que l'habitat est dans un bon état de conservation. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, la perle sur le gâteau. En fait, la présence de la mulette indique vraiment qu'on a des conditions de biotope qui sont bonnes, et ce, depuis assez longtemps. Une des histoires qui a été assez néfaste pour l'espèce mulette perlière, c'est effectivement la présence de perles. On sait que depuis le néolithique, l'homme a récolté et pêché des mulettes pour les perles, donc ça date pas d'hier. Et on sait également que malheureusement pour elles, en fait, il y a eu des pêches assez conséquentes, notamment au Moyen-Âge, pour la mulette perlière, qui a dû décimer des millions d'individus pour la récolte de perles. Il faut savoir que pour avoir une perle de qualité, on considère qu'il faut ouvrir au moins 500 mulettes pour avoir une belle perle à peu près ronde. Donc voilà, et on sait également une chose, c'est qu'un des derniers pêcheurs de perles au niveau national a sévi dans le Finistère, sur l'Audet, dans les années 50.
Donc là, on a une boîte avec des mulettes dedans, donc c'est une boîte qu'on a fabriquée nous-mêmes à partir d'un modèle, c'est modèle allemand, ouais. Donc c'est du bois, en l'occurrence c'est du chêne qu'on a utilisé. Et puis dedans, en fait, on a mis une toile qui laisse passer les sédiments et l'eau en principe. Mais là, on voit qu'elle est bien chargée en sédiments, donc elle a bien remplie. Et on va essayer de voir où sont les mulettes là-dedans.
L'intérêt d'une boîte comme ça,
c'est quoi en fait? On maîtrise l'environnement en principe dans lequel elles sont. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la qualité de l'eau qu'elles reçoivent. Mais par contre, comme on passe voir régulièrement la boîte, elle est relativement moins colmatée que les sédiments dans lesquels elles seraient si elles étaient dans le milieu naturel. Donc bon, les mulettes qui sont là dans la boîte ont aujourd'hui une certaine taille, donc sont moins sensibles au côté colmatage et sédiments, parce que à l'âge et à la taille qu'elles ont, elles sortent déjà complètement des sédiments, au moins une partie du temps, quoi. Donc là on voit quelques mulettes qui sont complètement ensablées. Alors on va devoir complètement les...
Ouais. Peut-être la dernière.
On va les nettoyer là.
Ouais.
Bah moi j'ai jamais vu une boîte aussi pleine que celle-là.
Non.
Et pourtant ça fait 3 ans maintenant qu'on a ce modèle-là, qu'on utilise dans pas mal de cours d'eau de Centre-Bretagne.
Et en fait c'est dû aux crues qu'on a eues cet hiver, qui ont ramené un maximum de terre de l'ensemble du bassin versant,
ouais,
dans la rivière et à travers le réseau de drains, de fossés. Et du coup tout ça arrive au fond de la rivière et est bloqué dans les endroits dans les zones de dépôt. Le fort colmatage qu'induit ce transit de sédiments sur le bassin versant peut poser des problèmes, entre autres à la mulette et aux autres espèces. On a la truite qui vient se reproduire sur les zones de radier. Si les zones de radier sont recouvertes de sédiments, bah, la reproduction ne peut pas se faire et on perd en capacité de production pour le cours d'eau, quoi. Yves Merle, moi je suis technicien rivière à Blavet-Thériault, structure qui effectivement mène les actions du contrat territorial Blavet-Médian, on va dire, sur la partie, entre autres, du bassin de la Sarre. Nos structures, Fabien et moi, c'est des structures qui sont chargées de la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Pour ça, en fait, on met en œuvre des actions pour restaurer une bonne qualité de l'eau dans les cours d'eau et surtout une bonne qualité de nos rivières. Donc ça, on a tout un programme d'action qui pour intervenir sur les bassins versants, sur nos deux territoires, hein, Lorient Agglomération et Blavet-Terreau, à l'échelle de nos territoires. Là, on va, par exemple, restaurer le maillage bocager. Donc, on a des collègues qui vont venir refaire les haies et les talus de façon à limiter l'érosion, le transfert de la terre dont on parlait tout à l'heure dans la rivière, par exemple. On va aussi travailler sur les réseaux de fossés avec des limitations de curage, par exemple. Et puis surtout, après, on va travailler sur les cours d'eau en eux-mêmes pour avoir un habitat qui soit le plus favorable possible à la mulette perlière et aux autres espèces qui y habitent. Donc là, on va travailler sur la continuité écologique pour permettre aux poissons de remonter vers leur zone de frayère. On va travailler aussi sur la ripisylve pour éviter un fort colmatage du fond de la rivière. On va travailler sur l'hydromorphologie globale du cours d'eau.
Il y a plein d'acteurs en fait, qui interviennent dans l'élaboration et dans la mise en œuvre du contrat territorial volet milieu aquatique. Et en fait, nos deux structures, en fait, on est partenaires avec Bretagne Vivante et on soutient Bretagne Vivante dans leur action en faveur de la mulette perlière et dans les études qui sont menées actuellement. Fabien Carré, technicien de rivière et milieu aquatique. Donc à Lorient Agglomération, qui est la structure donc porteuse donc du contrat territorial volet milieu aquatique sur les affluents du Blavet aval et partenaire donc de l'étude sur la mulette perlière, partenaire notamment avec Bretagne Vivante. Il y a plusieurs cours d'eau qui accueillent de la mulette perlière donc sur nos deux territoires. À Lorient Agglomération, on a deux autres cours d'eau qui se situent qui sont très proches. C'est le Brandifroute et puis le Sebrevette. Il y a eu des inventaires qui ont été réalisés à la fin de l'été 2023 et puis au début de l'automne 2023 qui ont permis de montrer que les mulettes perlières étaient toujours présentes sur le Brandifroute et le Sebrevette, avec des effectifs plutôt stables sur le Brandifroute, voire en légère augmentation avec à peu près 200 individus, alors que c'était estimé plutôt à 180 individus lors du dernier comptage en 2018. Et sur le Sebrevette, on a eu plutôt une bonne surprise. On passe d'une population estimée de 27-30 individus à une population de presque 100 individus sur les zones qui ont été prospectées.
Et un autre point aussi qu'on n'a pas encore dit, c'est que on n'est pas là pour devenir éleveur de moules à long terme. L'idée, c'est de donner un coup de pouce, en fait, de relancer et d'espérer retrouver une dynamique fonctionnelle de l'espèce et du coup de s'effacer, quoi. C'est vraiment un appui logiquement dans l'idée de départ sur un temps court qui a été initié sur un LIFE, qui est un outil financier européen, avec la construction notamment de la station d'élevage qui est située dans les Monts d'Arrée sur un site de la Fédération de pêche du Finistère.
31 vivantes dans la boîte qui est en tout inox là, mais en fait on avait déjà parlé, hein, je t'avais dit que Yves, c'était une boîte qu'on a imaginée, qu'on a fait faire par un forgeron du Finistère, et on se disait c'est quand même un bon système, c'est entièrement ajouré, donc l'eau passe très bien là-dedans, quoi. Et on voit la limite peut-être aussi entre les deux boîtes, ça c'est une boîte, la boîte en bois est moins ajourée, l'eau circule moins bien, a accumulé plus de sédiments, donc bon là, il faut essayer de constater que la taille des, en plus de la maille n'est pas la même, que bah il y a un où il y a 100% de survie, puis l'autre on a, on va dire un tiers qui n'a pas passé l'hiver. Là, on peut se poser des questions sur la boîte, quoi.
Okay. Donc c'est des prototypes, et c'est vrai que entre la version bêta et puis la 5.0, il y a des évolutions. Aujourd'hui, effectivement, sur les autres manipulations sur la SAR, par exemple, ce sont les boîtes en version 5.0 qui ont été utilisées. Ça permet effectivement de mettre plus de chance dans la manipulation, quoi.
En fait, sur ce genre de manipulation, la Bretagne est pratiquement précurseur sur tous les sujets en France, puisque on est avec la Normandie parmi les premiers à avoir travaillé sur le LIFE et le PNA ensuite. Et puis bah, du coup tous les principes d'élevage et choses comme ça sont adaptés de ce qui se fait ailleurs en Europe, mais en France on est les premiers à le faire, quoi. Donc bah, parfois on est obligé d'inventer le propre système. Donc là, je vais remettre la boîte dans l'eau en essayant de retrouver l'endroit à peu près où elle était. L'aspect de la rivière n'a rien à voir avec celui qu'elle avait lorsqu'on les a mis dans l'eau. En fait, il y a énormément de sable ici. Alors qu'avant, on voyait vraiment le lit et donc la matrice de la rivière, quoi. L'armure, pardon. Nous, on a fini la manip pour la journée. On va aller voir peut-être une autre boîte qu'on a mis sur le Restermoël, qui est un affluent de la Sarre. La Sarre, on est juste à côté, hein, c'est la rivière qu'on entend à côté de nous. C'est une manip qu'on a fait l'année dernière. Donc c'est des jeunes mulettes là, qui sont un peu plus jeunes que celles qu'on a ici, qui ont été introduites en boîte l'année dernière. Et puis bah, on va voir effectivement le taux de survie après un hiver.
Voilà à l'instant ce reportage réalisé sur la commune de Bubry en compagnie des acteurs de Bretagne Vivante qu'on retrouve tout de suite pour aller plus loin sur cette espèce. Nous retrouvons Ronan Lemener, chargé de mission biodiversité à Bretagne Vivante.
Bonjour Ronan.
Bonjour.
On t'a suivi avec Pierrick eh bien, une partie de la journée ce matin et j'aimerais qu'on revienne un petit peu, donc on va continuer de parler de la mulette perlière, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les différents plans d'action qui ont été mis en œuvre, à savoir voilà, depuis 2010, il y en a eu différents plans d'action en faveur de la mulette perlière, le programme européen LIFE ou le PNA, le plan national d'action. Bretagne Vivante fait partie encore des organismes associés. Quel était l'objectif de ces différents plans ?
À l'origine, sur le LIFE, la connaissance des populations de mulettes perlières était très partielle en Bretagne. On connaissait surtout une population qui était dans l'Hélès, dans le Finistère. Mais les autres populations qui étaient connues pour être existantes n'étaient pas bien étudiées. Donc c'était d'acquérir de la connaissance sur ces populations-là et de pouvoir commencer à aborder des problématiques de renforcement, de conservation à partir de ces trois populations. Donc une en Finistère, une en Morbihan et une en Côte d'Armor. Donc le LIFE a permis de financer à la fois ces actions de conservation, de connaissance et la construction d'une station d'élevage qui était l'élément indispensable à la mise en œuvre de ces programmes de conservation.
Est-ce que tu peux revenir justement sur cet aspect élevage
oui.
Et les partenariats qui existent aussi entre les différents organismes ?
Au départ, la Bretagne Vivante avait une connaissance de quelques populations en Bretagne, mais il fallait pour cela, pour pouvoir renforcer les populations, tout de suite réfléchir à comment renforcer les populations ? Et le techniquement, c'est faire de l'élevage à partir de jeunes mulettes, quel que soit leur âge, pour les réintroduire ensuite en milieu naturel. Et on a décidé de s'associer avec la Fédération de pêche du Finistère qui possédait une pisciculture dans le centre Finistère, à Brasparts précisément, et qui avait une expertise sur l'élevage de poissons, puisque c'est leur métier. Et la truite fario étant, comme on l'a dit au cours de la matinée, un élément indispensable du cycle de vie d'un mulette, c'était nous notre déclencheur pour trouver ce partenariat.
Aujourd'hui, les plans continuent. Est-ce que les objectifs sont remplis et les objectifs que vous étiez fixés ? Je sais que Bretagne Vivante n'a pas attendu de 2010, en tout cas, les plans pour travailler sur la mulette perlière. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Comment aujourd'hui vous voyez l'évolution, en tout cas, de ces plans ? Est-ce que vous rentrez dans vos objectifs ?
Oui, alors sur les lives, on était sur trois populations. Alors j'ai oublié de préciser quand même, mais un élément important, on était associé avec des partenaires normands. En fait, le live était porté par trois structures, le CPIE des Colonies Normandes, Bretagne Vivante et la Fédération de Pêche du Finistère. On a acquis des connaissances qui nous ont permis ensuite de diffuser ces connaissances. Alors, pour les Normands, à leur échelle, et pour nous, à l'échelle de la Bretagne. C'est-à-dire qu'on est, on est passé de trois populations sur lesquelles on avait, à ce moment-là, acquis pas mal de connaissances, trois populations, trois rivières, à une dizaine de rivières, même un peu plus aujourd'hui, sur lesquelles on intervient, où on a des populations significatives et que l'on suit régulièrement. Donc significative, c'est ce qu'on entend, plus d'une centaine d'individus. Donc on a démultiplié l'expérience qu'on a acquis au cours du premier programme de conservation, dont à savoir le LIFE. Et donc cette démultiplication s'est déroulée au cours de la déclinaison régionale du plan national d'action.
Alors la mulette perrière est une espèce patrimoniale qui est menacée. Est-ce que c'est les mêmes menaces qu'il y a en Bretagne, qu'en Normandie, qu'en France et qu'en Europe?
Alors, je pense qu'à l'échelle française, les menaces sont à peu près équivalentes. Cela dit, il faut peut-être sortir un petit peu le massif central où on a des surfaces cultivées qui sont largement moindres à l'échelle d'un bassin versant. Comme on l'avait évoqué tout à l'heure, chez nous, c'est la quantité de surface cultivée sur la proportion de la surface cultivée sur un bassin versant qui peut poser problème. En Massif central, on est sur des espaces naturels beaucoup plus importants, d'où aussi le fait que ce soit là que résident encore les dernières grosses populations françaises. À l'échelle de l'Europe, c'est pas tout à fait la même problématique. Il peut y avoir de la déforestation, il peut y avoir du réchauffement climatique, il peut y avoir des problématiques d'élevage, il pourrait y avoir des problématiques aussi sur les méthodes d'exploitation des forêts à proximité des populations.
L'une des parties aussi de Bretagne Vivante, c'est de sensibiliser, animer. C'est aussi une partie que vous faites auprès de différents publics aussi, de sensibiliser autour de la mulette perlière.
Oui, en fait, nous, notre public, c'est essentiellement un public de techniciens, de professionnels et des élus. En fait, à chaque élection, on reprend notre bâton de pèlerin, on va revoir, taper à la porte pour leur dire vous avez une population de mulettes perlières qui est hyper importante sur votre territoire, c'est une espèce en jeu, il est nécessaire de mettre en place des actions pour la conservation, nous sommes là, nous sommes présents, le suivi de ces populations mérite un accompagnement, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Mais ça passe par de la sensibilisation. En fait, si les élus sont complètement renouvelés à chaque fois, nous, on renouvelle aussi notre action. Mmh. Et les techniciens assurent la continuité parfois, mais parfois, c'est les techniciens qu'il faut aussi revoir. On fait moins de sensibilisation grand public là-dessus, sauf pour des publics spécifiques. Typiquement, les associations de pêche sont des partenaires avec lesquels on travaille et les fédérations avec lesquelles on travaille à la sensibilisation des pêcheurs qui sont, eux, dans le cours d'eau, quoi.
Qu'est-ce qu'il reste à faire, justement, aujourd'hui, pour améliorer ces différentes choses?
Si je prends le dernier exemple, ce que je disais à propos des associations de pêche, c'est parfois même tout simplement de l'apport de connaissances. Aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs n'ont jamais vu de mulette perlière, et pour cause, parce qu'il n'y a plus que 27 rivières en Bretagne où il y a de la mulette perlière, donc ça c'est assez rare d'en observer. Et ils peuvent aussi parfois sortir des poissons de l'eau dans des rivières où il y a de la mulette, potentiellement à des périodes où les poissons sont toujours porteurs de glochidies, c'est-à-dire ces larves de mulettes, et par méconnaissance, enlever le poisson de l'eau, donc enlever toutes les mulettes qu'ils contiennent, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme la mulette perlière qui sont menacées?
En parlant des cours d'eau, alors il doit y avoir d'autres espèces. Alors nous, on travaille sur d'autres espèces plus ou moins. Donc je crois que Pierrick avait évoqué l'écrevisse à pattes blanches, qui est une espèce quand même moins exigeante que sur les conditions écologiques du milieu. Cependant, elle est soumise à un autre problème, c'est les maladies transportées par ses cousines, on va dire, les écrevisses exotiques. Et là, il faut absolument éviter les contacts, tout contact de cette espèce-là, de l'écrevisse à pattes blanches, l'espèce autochtone, avec les écrevisses dites américaines, quoi.
Est-ce que vous avez une expérience à partager aux auditeurs dans la découverte de la mulette perlière dans un cours d'eau?
En fait, On a fonctionné sur une petite expérience dans les Côtes d'Armor sur un cours d'eau qui s'appelle l'Hier, sur une investigation sur plusieurs années, puisque on est parti d'une détection de présence de mulettes sur un grand bassin versant où on avait repéré par la présence d'ADN de mulettes dans l'eau qu'il y avait quelque part sur ce bassin versant une mulette ou peut-être plus. Il nous a fallu plusieurs années de recherche avec différentes méthodes, notamment de l'ADN, de la recherche visuelle, de la recherche sur les branchées détruites de poissons pour arriver à localiser enfin cette population au bout de 5 ans et pour une dizaine d'individus. Et croyez-moi que ce n'est pas forcément évident de repérer une dizaine d'individus sur une cinquantaine de kilomètres de cours d'eau.
Quels vont être les prochains chantiers, ou en tout cas pour la mulette perlière dans les mois, années à venir ?
On est dans la continuité des actions existantes. On poursuit l'élevage, on poursuit aussi le renforcement des populations. On l'a évoqué également ce matin, nous, on est en train de relâcher actuellement les premières mulettes issues d'élevage à partir des mulettes qui sont devenues assez grandes pour pouvoir être remises en milieu naturel. Et puis, comme on l'a évoqué aussi, une des problématiques principales, c'est la présence de colmatage, de sédiments fins dans l'eau qui colmate les sédiments grossiers. Il va falloir qu'on travaille vraiment à l'échelle universitaire sur la recherche d'origine de ces sédiments fins et de trouver les solutions pour les réduire à la source si possible.
Alors avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des choses à lire autour de la mulette perlière si les auditeurs auditrices qui nous écoutent souhaitent aller un petit peu plus loin sur le sujet ?
Je vais commencer par une revue que tout naturaliste doit avoir dans sa bibliothèque, c'est La Hulotte. La Hulotte a fait un excellent numéro sur la mulette perlière, qui s'appelait Baby Mulette, je crois. Les publications autrement de Bretagne Vivante consacrées à la mulette perlière, on en a fait quelques-unes. La revue naturaliste de Bretagne Vivante s'appelle Penherbed. Il y a eu plusieurs numéros d'édités sur la mulette perlière au cours du life et au début de la déclinaison, régionale. Donc c'est des numéros qui sont assez anciens aujourd'hui, qui datent de 2017-18 pour les plus récents.
Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'étaient peut-être pas sensibilisés autour de la mulette perlière et qui la découvre aujourd'hui à travers le reportage et cet entretien, comment on fait pour préserver aussi ces mulettes on sait qu'elles existent et qu'elles sont dans les cours d'eau et des choses à ne pas faire.
La première chose en fait, c'est que considérer que la rivière en fait, c'est pas juste un vecteur d'eau de l'eau qui s'écoule, c'est un habitat à part entière. Ça veut dire qu'il y a une vie là-dedans. Il y a une vie, il n'y a pas que des poissons. Il y a aussi des poissons. Les poissons, c'est un élément indispensable du cycle de vie de la musette, donc faut pas les négliger. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, un milieu, une rivière bien vivante, c'est une rivière qui a besoin de beaucoup d'hétérogénéité, mais qui ne correspond pas toujours au standard de la propreté tel qu'on peut se l'imaginer, et vouloir faire trop bien, trop propre pour une rivière, c'est pas forcément toujours intéressant. Donc on garde du bois en rivière, on garde des berges ombragées et sans y être trop interventionniste. Comme on l'a dit, en fait, la mulette est très attachée à sa stabilité. Donc, pour tous les propriétaires qui sont riverains, c'est ça, quoi. Et puis après, par ailleurs, en fait, les citoyens sont des électeurs. On a un poids de décision sur les personnes qui vont ensuite choisir les politiques et qui seront mis en œuvre dans nos programmes, quoi.
C'est noté. Merci beaucoup, Renan.
Merci. Au revoir.
Merci encore à Ronan Leméner, Pierrick Pustor de Bretagne Vivante, Yves Merle de Blavet-Terre-et-Eau et Fabien Carré de Lorient Agglomération de nous avoir permis de tourner ce reportage et de nous avoir éclairé sur cette espèce menacée. Maintenant, vous êtes au fait et vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas la mulette perlière. Alors continuons de la préserver en prenant soin de nos cours d'eau. À très vite pour un nouveau magazine de biodiversité en air. D'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.